Chapitre 3. Lee ne reparut pas de la journée. Il avait de fréquentes absences enveloppées de mystères. Son ami ne s'en inquiétait pas et n'osait guère l'interroger. De tout autre, on ne put soupçonner qu'il cachait une intrigue. Mais de lui, cette supposition était bien improbable. Outre que Gabriel ne lui avait jamais connu aucune liaison, il le croyait tout à fait incapable d'en soutenir une. Une femme n'eût pas manqué de l'ennuyer au bout d'un petit nombre d'heures, et dans l'intervalle de deux rendez-vous, il se vit passionné pour un autre sujet. Rien n'avait pris sur lui, hormis des idées générales. Le fait, l'acte isolé, curieux ou émouvant, ridicule ou tragique, pittoresque, amusant, tel enfin que celui dont l'humilité est à peu près tout entière, se nourrit l'esprit chaque jour, l'événement grave ou burlesque sur quoi toutes les langues s'exercent, le laissait à peu près indifférent. Il n'en prenait note que pour le fier mentalement à tel fait de tel ordre, logé dans sa mémoire et en tirer quelques considérations, parfois étonnantes par son apparente rareté et naïveté, et souvent remarquables par son élévation. La conversation de la plupart des hommes était étrangère. Il restait muet parmi eux, l'heure d'un repas, le temps d'une soirée ou la semaine d'une villégiature, sans paraître gêné aucunement par leur présence autour de lui, sans donner ni l'impression d'un timide ni celle d'un méprisant. En réalité, ne les voyant pas, vers 5 heures de l'après-midi, Don Pierre allant prendre un bain, vit émerger de l'eau une tête aux longs cheveux gris, plaqués et ruisselants comme des joues rasées. C'était celle du révérend Lovely. Le clergyman l'interpella aussitôt au milieu même de son essoufflement, et avec un accent tout à fait outrageux pour la langue française. « Ah oh !» dit-il. « Je suis très satisfait de vous retrouver à côté de moi, monsieur Dompierre. J'ai aimé beaucoup la conversation, voulez-vous causer ?»« Mais avec le plus grand plaisir, mon révérend. Et malgré que l'eau me paraisse un milieu peu favorable à une conversation suivie. »« Christ enseigna dans la barque jusqu'au plus fort de la tempête. Il n'y a point de mauvais endroit pour prêcher la parole de Dieu. » Mais il y a des endroits qui sont mauvaises pour le salut de nos âmes. « Que voulez-vous dire ?» dit Gabriel en prenant pied, et intrigué par le préambule du clergyman, qui avait jusqu'alors manifesté pour lui tant d'indifférence qu'il était peut-être la seule personne à l'hôtel à qui il n'eût pas passé subrepticement en sortant de la table le petit testament de poche à reliure molle. « Cet pays, » dit le clergyman, « est mauvaise. » « Allons donc, mon révérend, vous voulez rire. Vous vous portez, je pense, aussi bien que moi, et tout le monde a bonne mine autour de nous. Est-ce que par hasard, Mistress Lovely... »« Non, il ne s'agit pas de Mistress Lovely, qui a le vieil âge et qui a fini d'être troublée. Mais tout le monde n'est pas ainsi, et véritablement, le climat de cet pays est mauvaise pour les âmes. » « Mais il me semble au contraire que la beauté y abonde, et elle est, si je me trompe, un des attributs de Dieu. »« Non, » dit le clergyman en sautillant dans l'eau, « cette beauté ne vaut rien du tout, véritablement, elle est perfide, et je pense qu'elle vient du malin. » Le jeune homme dissimula un besoin irrévérencieux du sourire en faisant un plongeon et revint se mettre à la disposition de son prédicant, qui avait monté l'échelle et s'essuyait posément, assis sur le sable au soleil. « Le malin, » dit Gabriel. « Mais j'ai nommé ainsi avec familiarité le démon, monsieur Dompierre. Véritablement, il faut trembler quand il prend la figure aimable. » Oh, si vous voyez le malin sous les choses aimables, je suis inquiet en effet pour plusieurs personnes et pour vous-même, mon révérend. Le malin vous a touché, je vous en préviens. Je le vois qui vous touche, puisque j'ai du plaisir en votre compagnie. Et entre nous, je ne sais ce qui me retient de vous dire le nom de quelqu'un qui me confessa que votre présence lui était un objet de délectation. » Le révérend Lovely se releva vivement en achevant de s'habiller. Il ne convient pas d'introduire la flatterie dans un sujet aussi plein de gravité, jeune homme. La flatterie, c'est l'ouverture par où le démon, il entre dans le home, et là, une fois assise, il est terrible. Brouh, dit Gabriel malgré lui, à la seule représentation des ravages que le malin pouvait causer dans le home du révérend Lovely. « Mariez-vous ! » s'écria le bonhomme, tandis qu'il passait son gilet. Il crut que Don Pierre ne l'avait pas entendu à cause des mouvements qu'il faisait dans l'eau et reprit. « Mariez-vous ! Mariez-vous avec une jeune miss de votre pays ?»« Bon, sans doute, mais je ne suis pas pressé. » Il avait rajusté sa redingote d'alpaga et il s'en alla en jetant encore la conclusion pratique qu'il avait promptement tiré de cette rencontre. « Mariez-vous, monsieur Dompierre, mariez-vous » Celui-ci demeura un peu perplexe en réfléchissant au sens de la conversation du clergyman. Lui conseillait-il le mariage à l'instigation de quelqu'un qui avait un intérêt à le faire? Avait-il eu vent de sa liaison et déplorait-il qu'il fût l'occasion d'un scandale? Ou bien enfin, s'était-il tout simplement épanché lui-même en tâchant de fournir à autrui les moyens de ne pas tomber, à son âge, dans les tentations brûlantes dont il avait peut-être à souffrir? Les trois hypothèses étaient également plausibles. En sortant de l'hôtel, Don Pierre aperçut sur le sol un petit volume relié à l'anglaise. C'était le Nouveau Testament. Il le ramassa en souriant et le soir il le remit au révérend Lovely, sous prétexte qu'il avait dû l'oublier. « Non, non, dit le révérend, c'est à vous. Si vous avez trouvé cet livre, il est à vous. »« Je souhaite, ajouta-t-il, que vous en fassiez la lecture, car c'est un livre plus profitable encore en cet pays que partout ailleurs. Regardez, voilà encore le musique qui vient ici presque tous les soirs. Eh bien, cette chose nous fait mal, croyez-moi. Cette chose est mauvaise. » Une troupe napolitaine, composée de 4 femmes et d'une 10aine d'hommes, préludait en effet devant l'hôtel, sur le violon et leur mandoline, au concert quasi quotidien. Les personnes qui ne se laissaient pas de cette musique brûlante et de ces mouvements un peu bruyants prenaient place dans le hall autour de petites tables de marbre où l'on servait les glaces. La troupe, après quelques chansons peu variées, se tria et 3 couples vinrent au milieu des assistants exécuter la tarentelle. Les hommes étaient tous beaux. Une des femmes, blonde, assez grande et à la fois souple et gauche dans ses mouvements, avait un charme rude et puissant. Les couples tournaient dos à dos, se cherchant toujours du regard, maniant avec frénésie les castagnettes, et excités par les autres instruments, par les voix et de temps à autre par les applaudissements du public. À la fin, les regards s'étaient joints. Il demeurait, la femme renversée en arrière, comme vaincue, l'homme penché sur elle, les yeux dans les yeux, flanc à flanc, les mains hautes dans les castagnettes immobiles, semblant pâmés dans tout leur corps, la bouche seule et les prunelles ardentes se dévorant à la courte distance du souffle. Le révérend Lovely, qui avait regardé le spectacle jusqu'à la fin, tourna soudain les talons et se dirigea dans l'ombre du jardin, en levant les yeux au ciel. Mais la jolie fille, qui avait eu le succès de la tarentelle et allait commencer le tour de l'assistance, une sébile à la main, courut à lui et on le vit se retourner du côté de la lumière pour prendre de la monnaie dans son gousset. C'était le prix du scandale. Du moins fit-il ses efforts pour ne point recevoir le sourire troublant de la danseuse napolitaine. Gabriel faisait remarquer la petite scène à Madame Belvidera, qui était assise auprès de lui, et tout en lui racontant les conseils impromptus que le révérend lui avait donnés au bain. « Prenez garde, dit-elle. Il y a ici une jeune fille de vos compatriotes qui est tout à fait en âge d'épouser un homme comme vous. » « Oh, vous ne lui déplaisez pas, assurément. Eh bien, vous déconcertiez un peu sa sœur aînée, qui lui tient de maman, Vous n'avez pas de défaut assez saillant pour ne pas lui représenter un parti sortable. Il y aura, ou il y a déjà peut-être, un complot organisé contre ou pour votre intéressante personne. Je n'aime pas ces plaisanteries-là. Voyons, je vous parle en riant de la conversation énigmatique du bonhomme Lovely à cause de ce qu'elle a d'imprévu et d'amusant, et vous me répondez de votre plus grand sérieux. Mais c'est sérieux, un jeune homme en présence d'une jeune fille. C'est une réunion tellement sérieuse que tout autour d'eux conspire à les rapprocher, les gens et les choses, les hasards fertiles. C'est une entente secrète, mystérieuse, une espèce de sourde volonté de la nature qui agite et met tout en branle dans le but de les unir. Mais pourquoi me dites-vous cela? Vous savez bien qu'il m'est très agréable de vous entendre parler de tout ce qui n'est pas vous, votre amour et l'espoir de le prolonger, d'y consacrer toute ma vie. De plus, vous savez qu'il y a dans ce cas particulier quelque chose qui m'est tout spécialement désagréable et qui devrait vous interdire même de l'envisager comme réalisable. Faut-il vous rappeler la circonstance de la grotte? Enfin, mais tout ça ne signifie rien. Et cette circonstance est une chose qui pèse bien peu contre la détermination d'une femme. Qui sait, elle a pu même produire tout le contraire de ce que vous imaginez. Ah, mais comme vous nous connaissez peu. Et vous me demandez pourquoi je vous parle de cela, moi? Mais peut-être bien parce que je ne peux pas plus faire autrement que les autres. Peut-être parce que j'obéis aussi à cette force secrète, à la conspiration universelle en faveur du mariage. Peut-être aussi est-il naturel que je vous parle avant tout autre de cette éventualité, parce que je suis la personne qui la redoute le plus. Non, tout cela m'agace au plus haut point. Je préfère rompre toute relation avec les chants d'oiseaux. Mais ce n'est pas moi qui vous ai poussé à les connaître, mon ami. Et pouvais-je prévoir la chute de cette jeune fille au milieu de nous? Ah, tenez, je fais le serment de ne plus nouer de relations avec aucune famille avant d'avoir posé les questions suivantes. Avez-vous une ou plusieurs filles, sœurs, cousines, amies ou connaissances, à quelques degrés célibataires, ayant atteint l'âge nubile ou sur le point d'y parvenir? Non. N'avez-vous en aucune de vos entournures ni veuve ni divorcée? N'avez-vous personne qui soit en instance de divorce, voire même de séparation de corps? Non. Ah, eh bien, alors tombez là, je suis des vôtres. Les Napolitains, ayant quitté le hall, jouaient des airs de valse, dont les sons adoucis arrivaient agréablement par les grandes baies ouvertes. Quelques Américaines et des Viennoises se balançaient avec élégance au bras de jeunes gens en smoking. Madame de Champ d'Oiseau, qui allait de groupe, en parlant à tort et à travers, cogna familièrement de son face-à-main l'épaule de Gabriel, pendant qu'il causait avec Madame Beldibera, et lui dit, non sans une pointe de méchanceté, « À qui donc? J'ai entendu dire que M. Dompierre était un valseur émérite. En tout cas, le bruit en est venu jusqu'à ma petite sœur qui le sait. » Et elle passa, caquetant déjà plus loin. « Mais c'est un peu fort, dit le jeune homme à Mme Belvedere. Oh, j'ai envie de me sauver. »« Il est trop tard, dit-elle en riant. Vous voilà pris dans le piège. Il faut que vous valsiez avec Solveig. » Ah non, pas avant d'avoir dansé avec vous. Oh non, non, ne faites pas cela, je vous en prie. Il n'y a jusqu'à présent que les jeunes filles qui dansent. Allez inviter la petite Solveig. C'est moi qui vous l'ordonne. Et je ne vous plains pas tant. Solveig parut fort surprise quand il la salua en la priant de lui accorder cette valse. Elle eut un mouvement d'hésitation, infiniment bref, et le regarda un instant bien en face de ses yeux bleus. Elle les rabaissa aussitôt, lui donna le bras sans mot dire. Il était résolu à interpréter tout ce qui la concernait dans le sens le plus défavorable, mais la première phrase mentale par quoi se formula en lui son impression première fut « Eh bien, décidément, ma petite, tu n'as pas froid aux yeux. Il ne se souvenait pas avoir vu jamais deux yeux se poser si franchement en face des siens. Voyez-vous ça, continua-t-il avec cette fatuité dont les hommes se départissent rarement en présence du plus maigre encouragement féminin. Vous vous dites, mademoiselle, que je suis un fêtard, ni trop décati, ni trop bête, et qui mélangerait volontiers au plaisir qu'il goûte avec une belle maîtresse, celle d'un flirt un peu hardi avec une fraîche peau blonde. Ah, ah. Mais votre sœur songe à vous marier, vous n'y songez pas d'inconvénient. Quant à vous, mais vous n'avez pas tant d'exigences. Attends un peu, ma petite. Ils avaient fait plusieurs tours de valse en silence. Il remarqua qu'elle était fort légère et dansait admirablement. Elle avait un parfum délicat. Son bras, qu'il soutenait de la main, avait une forme exquise, et comme elle était dégantée, la finesse de sa main le frappa particulièrement. « Mon vieux, » fit-il à part lui, « tu n'as jamais eu moins de veine que de te trouver éperdument amoureux, juste au moment où une petite caille aussi douillette te tombe dans le bec. Quelle délicieuse aubaine tu vas rater là. Comme vous semblez être aimée de madame votre sœur, mademoiselle, et je suis sûr que vous êtes son amie, au moins autant. Je parierais que vous avez les mêmes goûts. Mon Dieu, monsieur. » À part lui. Mon Dieu, monsieur. Ça veut dire que tu t'en moques des goûts de ta sœur, comme ta sœur le fait elle-même en son fort intérieur. Tu ne sais pas plus qu'elle, quels sont les tes goûts, ni même si tu en as. C'est bon, tu le fais moins à la pause que ta godiche de sœur. Tu tiens pas à avoir des goûts. Bon, 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 laissons ça. Madame de Champdoiseau nous a tous séduits ici, mademoiselle. Oh, c'est une femme de l'esprit le plus charmant, et vous devez avoir à Paris de délicieuses relations. Elle le regarda avec une moue très jolie et très intelligente, au fond du bleu limpide de ses yeux, et sans répondre. Bien, bien, fit-il en lui-même. « Oh, tu te dis que je te verse des banalités, que tu trouves un peu long pour le début. Tu aimes que ça ne traîne pas, toi. Oh, tu t'étonnes que je ne t'ai pas fait jusqu'à présent un compliment s'adressant directement à toi, ou bien que je ne t'ai pas pressé le bras dans ma main, au lieu de l'enterner dans les bêtises comme un collégien. Eh bien, Bernique, ma petite, tu peux te fouiller. Je suis ici de corvée, moi. T'as pas l'air de t'en douter. » On m'a commandé de valser avec toi, petite péronnelle. Et je valse, et je valse. Aïe donc, je valse même pas mal, comme tu vois. Ça m'est déjà pas si désagréable. Il y en a qui s'en contenteraient. Mais quant à faire l'aimable, spirituel, ou bien quant à ouvrir le flirt, toi, non, ma belle, non, non, rien de fait. Oh, parce que tu m'as vu dans la grotte, parce que tu sais que je n'y vais pas par quel chemin avec la belle italienne. Tu penses que je n'ai plus à me gêner avec toi. Il y a presque une complicité, presque une connivence entre nous. Et parce que tu me laisses voir que je te botte assez, tu te demandes pourquoi je n'y vais pas avec toi, la bonne franquette. Eh bien, non, 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 non. Je continuerai d'être banal et décent. Je te dirai des choses stupides et convenables. Oh, je ne presserai pas ton bras, malgré qu'il ne soit pas mal du tout. Oh non, ça, je ne dis pas non. Avouez, mademoiselle, que l'on vous avait trompé en vous disant que j'étais un valseur. Mais je crois en revanche que je deviendrai en dansant avec vous. Mais monsieur, fit-elle simplement, personne ne m'a prévenu que vous fussiez un valseur. Je m'en aperçois seulement. Ah, c'est donc un tour de madame de Champdoiseau. Comment, monsieur, que dites-vous? Il se demanda un moment s'il aurait la cruauté de lui confirmer qu'il ne l'avait invité que sur la prière de sa sœur. Mais il se sentait en veine d'infamie. Il en eût commis le pire à l'égard de cet enfant si l'occasion lui en eût fourni. Son amour pour l'italienne le rendait enragé comme une bête contre tout ce qui pouvait avoir en dehors d'elle le parfum d'une simple galanterie. « Mais, mademoiselle, reprit-il, il n'y a qu'un moment, madame de Champdoiseau me remplit de confusion en m'avertissant que le bruit de cette réputation était parvenu jusqu'à vous, et qu'il ne tenait qu'à moi de le démentir. La modestie me commandait de ne pas hésiter. Elle rougit et son joli bras eut une petite secousse nerveuse. Il ressentit une mauvaise joie de se venger de la sottise de Madame de Chantoiseau en humiliant sa petite sœur à son occasion. De plus, il avait conscience, par sa façon de brutaliser Solveig, d'éloigner de son idylle toute cette famille et de détourner définitivement de lui ses yeux bleus au regard imperturbable qui portait tous les jours l'image de la grotte d'Isolabella. Il reconduisit la jeune fille à sa place et revint à la sienne. « Maintenant, dit-il à Madame Belvidéra, ai-je gagné le droit de danser avec vous ?»« Vous avez gagné le droit d'être mis au banc de notre société, car il est clair que vous avez maltraité cette jeune fille qui vient de s'asseoir le cœur gros, blessée évidemment en quelque chose de très intime, et qui ne pourra être consolée que par sa bête de sœur, dont la première parole va la faire sangloter. » Oh, vous prêtez à tout le monde votre sensibilité, et vous êtes d'une générosité incompréhensible envers cette petite que vous ne connaissez pas plus que moi. Avouez que vous avez été méchant avec elle. J'ai suivi tous ses mouvements et les vôtres. Je ne vous ai jamais vu une aussi mauvaise figure. Mais non, non, j'ai été seulement aussi banal et aussi sot que possible. N'est-ce pas même généreux de ma part, car au moins elle ne s'illusionnera pas sur la valeur du parti que je représente. Oh, taisez-vous, je vous déteste, allez-vous-en. Mais c'est à cause de vous que j'ai fait ce que vous me reprochez. Il la regardait assise nonchalamment dans une berceuse d'osier. Ses magnifiques cheveux noirs avaient sous les lampes à incandescence des reflets bleuâtres et noirés, que le léger balancement de son corps faisait mouvoir le long des épaisses torsades ondulées. Elle le regardait de ses grands yeux sombres, embellis par l'émotion que lui donnait confusément sa réelle pitié pour la jeune fille, et un sourd plaisir tout de même de le sentir transformé, devenu cruel, incivil et méchant à cause de sa passion pour elle. Elle avait aussi une véritable colère contre lui, et elle contraignait tout cela en lui parlant du bout des dents, avec un sourire immobile et fin, sous les regards de tout le monde. Ses beaux bras étaient demi-nus, et sa main, ornée d'une simple perle qu'elle levait jusqu'à la lèvre pour en dissimuler les contradictions involontaires, ramenait constamment l'attention de son amant sur sa bouche dont la seule vue lui faisait trembler les jarrets. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, dit-elle. Si, si, fit-il en se penchant pour la saluer, ce soir à 10 heures, près du bassin, dans le jardin des annexes. Ne les entendant pas, tant qu'un mot prononcé par l'un d'eux et s'élevant au-dessus des préoccupations contingentes ne l'avait pas frappé. Alors il s'éveillait tout à coup et partait en une sève de considération originale où l'auditoire à son tour le lâchait infailliblement. L'esprit du commun des hommes est ainsi fait qu'il a besoin de s'étayer sur la stabilité d'un point d'appui palpable, matériel et familier, dont l'image évoquée vient au secours de la pensée débile. Il nous faut partir d'un objet, d'un être ayant une figure et un nom, d'une personnalité. Aussi allons-nous rarement très haut ou très loin, retenus sans cesse par le besoin de limiter l'application de nos découvertes à notre entourage immédiat, aux nécessités sociales momentanées, à l'heure historique qui s'écoule en un mot à un cercle étroit. Notre vue se raccourcit et nous devenons des myopes à force de ne regarder qu'à plus près de nous. Dante Leonard William, lui, était un homme pour qui le point de départ du jugement ne reposait ni sur le sol que voulait son pied, ni dans le panorama offert à sa vue dans le moment qu'il parlait, mais se mouvait comme une barque idéalement rapide, selon le cours du long fleuve de connaissances accumulées par les siècles. Il en résultait chez lui une contradiction fréquente avec les conclusions de la plupart, ce qui le faisait traiter d'insensé par les personnes douées de sens commun. Il en résultait d'autre part une sorte d'insensibilité, de désintéressement si total des gens et des choses, qu'une société, se piquant d'être pitoyable, le prenait pour un monstre. Ajoutons que c'est une singulière revanche en faveur des grands originaux, incompris, d'une époque à la mesquine, de passer pour des dieux vis-à-vis des gens les plus ridicules. C'est pourquoi Dante Leonard William était l'idole de Madame de Champdoiseau. La pauvre femme, qui, grâce à son humeur volage, avait oublié le poète durant une partie du déjeuner à l'auberge d'Isola Bella, retombait dans un tourment très sincère toutes les fois que l'image de son héros se représentait à son esprit papillonnant. Elle l'avait fait chercher vainement sur la place de l'église, vainement dans les jardins, vainement dans le palais. Elle ne vécut pas tout l'après-midi, attendant fiévreusement l'heure du repas du soir pour se convaincre qu'il était vivant. Elle envoya le révérend Lovely à l'Isole Madre, et le serviable clergyman se priva de son bain accoutumé de 5 heures pour lui rendre le service de retrouver le poète. Mais il revint d'Isola Madre seul, ayant, pour la première fois de sa vie sans doute, un pli chagrin sur le masque serein de sa figure de croyant. Le dîner faillit être tragique. Madame de Champdoiseau ne contenait pas son impatience. Elle se levait de table afin de voir si le poète n'apparaissait pas dans la magnificence du crépuscule, et elle demandait au garçon d'hôtel s'il n'y avait rien de nouveau. Elle se fâchait avec Solveig, qui se moquait d'elle, et ne prêtait aucune attention aux paroles rassurantes de M. de Champdoiseau. Lee n'avait pas reparu. On avait éprouvé quelque soulagement à parler de l'absent avec M. Dompierre, qui était son ami, quelque chose de lui. Mais cet adoucissement s'était vite changé en aigreur, et l'on avait fait sentir au jeune homme le regret que ce ne fût pas lui qui fût loin et lié à sa place. En effet, ils étaient deux amis. Pourquoi ne se trouvait-il pas que Lee fût ici et dont Pierre perdu? Gabriel quitta le groupe agité que présidait Madame de Champdoiseau. Il marcha quelque temps sur la route qui longe le lac et alla s'étendre sur les coussins d'une barque amarrée sur la grève. La lune se levait tard. Le lac était dans l'ombre, on n'entendait pas un bruit. Il éprouvait à la fois le besoin et la peur de se ressaisir soi-même dans un moment de solitude. Depuis une quinzaine de jours qu'il vivait au bord de ce lac, il n'était pas sorti de l'extravagance du rêve. Les conceptions les plus fantastiques de son ami, le poète anglais, ne lui causaient plus d'étonnement. Et dans l'éclair de conscience que lui laissait par hasard son absorbante occupation amoureuse, il n'était pas certain de n'être pas devenu quelque personnage d'un des contes de fées que celui-ci improvisait parfois avec un rare bonheur. L'air extrêmement doux qui souffla quand il fut installé dans la barque immobile prolongea le large frisson de la surface du lac jusqu'à ses épaules. Il y reconnut l'odeur lourde des lauriers fleuris, et en tournant la tête, il aperçut un massif de ces arbustes dont les branches chargées laissaient pendre jusque dans l'eau leurs gros paquets de fleurs charnues. Il ne put retenir un léger mouvement comparable à celui que l'on fait sous le coup de la surprise d'un baiser sur la nuque. Mais il sourit de son enfantillage. C'était la troisième fois qu'il ressentait l'impression un peu étrange, mais vive et troublante, du charme de ces rives du lac, prenant soudain comme une personnalité et un corps, et vous frôlant d'une véritable caresse. Il faut avoir passé ici ces jours de l'été finissant et ces soirées encore trop chaudes où l'on souhaiterait de la fraîcheur pour comprendre l'effet curieux de la brise tiède et odorante qui passe lentement et semble s'attarder avec insistance autour de votre visage. Elle n'avait senti ceci nulle part ailleurs que dans ce pays. La première fois, ça avait été lors de son arrivée sur la Reine Marguerite, dans l'instant où la cloche annonçait la station de Baveno, et où il partageait son attention entre l'admiration de la sirène nouvellement apparue et le spectacle des mille lumières trouvant le feuillage des jardins. C'était au moment où cette impression se renouvelait pour lui, et dans une barque pareille à celle où il était en ce moment-ci, un soir de ciel couvert et d'obscurité pesante, que la même sirène était tombée dans ses bras. Cela était arrivé après 8 jours d'une guerre terrible où il n'avait pas lassé une minute de répit à la malheureuse qu'il avait sentie perdue tout d'abord, mais qui se défendait avec l'intrépidité d'un naufragé, s'accrochant de ci de là à tout ce qui avait une apparence de la pouvoir garantir du précipice où elle se sentait attirée par une puissance invincible. Elle avait eu des crises d'amour affolées pour sa fille. Elle l'embrassait à toute heure. Elle avait passé des journées sans descendre de sa chambre. Mais pouvait-elle ne pas aller jusqu'à la persienne close, où elle apercevait, au travers des jours étroits, la figure bronzée, coupée par la lumière, de la barbe blonde et les yeux clairs du jeune homme qui implorait si passionnément. Alors elle redescendait, elle retombait sous le charme de cette parole discrète, voilée, mais toute tremblante et toute brûlante, et d'une si évidente sincérité. Encore cela n'aurait-il rien été, peut-être, mais tout s'en mêlait, l'air, le pays, les parfums, la musique, l'eau, les barques, les promenades, c'était un tourbillon, elle y était prise, et elle avait fini par fermer les yeux. Ils étaient venus là en riant. Elle s'efforçait d'aimer la plaisanterie, et il s'y acharnait lui-même, surtout dans les moments où il mourait d'envie de se jeter à ses pieds en l'adorant. Ils avaient fui ce soir-là le monde artificiel qui bourdonnait comme un essaim de guêpes autour de leur amour tacitement avoué, et ils se trouvaient en face l'un de l'autre, comme deux ennemis, et faisant profession de douter réciproquement d'un penchant dont ils étaient très sûrs. Ils avaient comploté des yeux cette sortie. Ils s'étaient dit des yeux « Je vous aime » et « Oui, je vous aime ». Leur cœur avait bondi simultanément en se retrouvant dans l'ombre, loin du cercle de leurs amis. Mais ils avaient à peine osé se toucher la main, et les mots pressés, courts et fébriles qui leur étaient venus à l'un comme à l'autre étaient des mots qu'ils eussent pu prononcer dans la présence des gens qui s'étaient donné tant de mal à quitter. Dans un endroit où la route passe assez près du rivage, ils avaient aperçu cette barque isolée et tirée sur le sable. C'était le moment où ils commençaient à mettre presque de l'amertume dans leurs propos, où ils s'enfonçaient de petites pointes blessantes à plaisir. Elle lui dit « Rentrons, je vous prie. » Il lui dit « Vous êtes là, s'asseyons-nous. » L'installation dans la barque apporta une trêve à leurs escarmouches, mais fut le prétexte à mille facéties. Enfin, il faisait presque de l'esprit, lorsqu'arriva la brise chaude au goût des fleurs de laurier rose. Ils se penchèrent instinctivement l'un vers l'autre, et tout le reste du temps n'eurent plus envie de rire. Il aimait à se figurer que cette brise contenait toute la vertu de l'admirable paysage, et il lui gardait, comme à une amie influente, une reconnaissance sans borne. Depuis lors, c'était une folie, une grande débauche, une perte complète de la conscience. Il était plongé corps et âme dans la passion la plus éperdue, et sa maîtresse s'abandonnait avec l'intrépidité d'une source détournée de son cours naturel, et que l'abondance de ses eaux familiarise promptement avec son nouveau lit. Il ne pensait pas à l'interroger. Il n'avait pas le loisir encore de songer à son passé. Il y a des pays, des atmosphères ou bien des heures où la sensation du présent est si forte qu'elle absorbe tout le temps écoulé et tout l'avenir. Parfois, par analogie, devant des fleurs ou devant un pan de muraille, ou au son d'une cloche à une église lointaine, elle évoquait, les yeux fermés, des souvenirs. Elle lui citait le nom d'une rue à Rome ou parlait d'une allée de son jardin à Florence. Il se hâtait de baiser ses lèvres et ses paupières, et l'on a si vite fait d'ordinaire de ramener une femme à la minute actuelle qu'elle souriait aussitôt, et il était sûr qu'elle ne pensait qu'à lui. Pour lui, le premier retour à la réalité des choses ne lui avait été fourni que ce matin même, par le moyen de la tête blonde d'une jeune fille apparue dans la trouée d'un rideau de lierre, et vis-à-vis de son étreinte amoureuse. Les lignes de cette fraîche figure étonnée restaient imprégnées sur sa rétine, et le pur éclat de ses yeux illuminant la pénombre du visage à contre-jour dans le nimbe d'or ensoleillé des cheveux, brillait encore à cette heure-ci en deux petits points qu'il entrevoyait très nettement. « Allô, allô, mais tu dors ?» semblait lui dire ces deux petits points. « Cependant, il y a un monde hors de toi et ta belle maîtresse. Il y a une morale humaine. Ainsi, tu vois, moi, je suis une enfant, je passais. Je me suis heurté violemment à ton démordant tabour. J'en garderai un trouble ineffaçable. » Ha, ha, ha ! Se prit-il à faire presque tout haut, le trouble ineffaçable de la petite sœur de chant d'oiseau. Ah, 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 même je deviens fou, à moins que je ne sois tout à fait sot. Il fit un bond en sentant deux mains se poser sur ses yeux. N'ayez pas peur, monsieur le vilain homme, qui venez ici vous cacher pour rire tout seul et qui ne voulait pas rire avec moi. Mais de quoi riez-vous? « Mais de moi, » dit-il en attirant Madame Belvidéra. « Ah, la bonne heure !»« Ah, » dit-elle, « mon ami, je suis harassée. Je n'en puis plus. Pourtant, je vous ai vu vous diriger de ce côté, et j'étais curieuse de savoir si vous viendriez là, dans cette barque, dans notre barque. Et je suis heureuse, heureuse que vous y soyez venue. » Il la serrait dans ses bras en la couvrant de baisers. Elle pencha la tête sur son épaule, tout épuisée de la fatigue de ses heureuses journées. Il sentit que son front était brûlant. « Louisa, vous n'en pouvez plus, rentrons. »« Non, non, » dit-elle, « il fait bon, là. Sentez-vous ?» La soirée s'avançait, la lune montait derrière la montagne éloignée, et les petites brises espacées fraîchissaient. « Comme on respire, mio, » dit-elle, « comme on est bien. » Il arrangea les coussins sous son corps. C'était un grand plaisir de le soulever, de le reposer sur la moleskine froide et de le sentir plus à l'aise. Elle nouait à son cou ses jolies mains fines un peu grasses. Il lui enjassait les reins et la déposait sur le divan improvisé. « Là, là, l'es-tu bien ? Oh, bien, bien, mon mio !» Elle ne l'appelait que mio quand ils étaient seuls, et elle redoutait quelquefois ce gracieux terme de possession en ajoutant le mot français à l'italien « mon mio ». Toutes les fois qu'elle prononçait ce mot-là, elle fermait les yeux, comme si elle l'allait chercher au-dedans d'elle et très loin. Et quand elle l'avait dit doucement, de ses lèvres tendues, qui semblaient en le prononçant se baiser elle-même par deux fois, elle entr'ouvrait la bouche pour recevoir le baiser que sa belle tendresse avait mérité. « Maintenant veux-tu que je mette à l'eau notre barque? Je vais prendre les avirons et nous irons au-devant de la lune qui vient là-bas. »« La lune où ça? Mais je la vois pas. Mais soulève-toi sur mon bras, bien. Regarde sa grande corne rouge. » qui sort de la montagne. Mais tu m'embrasses et tu ne regardes rien. Bah, mio, que je suis donc fatigué. Oh, pourquoi es-tu venu si loin? Je voulais te voir ce soir encore une fois, mais je donnais déjà debout, je dormais déjà debout au milieu de ces dames. On a fait de la musique, la petite Solveig a chanté admirablement. Oh, c'est un ange. Ah, ah, ah. « Bon, tu ris comme au moment où je suis arrivé, mais qu'as-tu ?»« Mais c'est ton ange, ma chérie, qui me fait rire. Je croyais qu'il n'y avait plus d'ange. Et voilà qu'il nous envie un de Paris. Oh, c'est tellement inattendu. Mio, je ne vous aime pas quand vous riez comme cela. Cela ne vous va pas. Il me semble que je vous entends chanter faux. Mais non, non, mon amour, mon cher amour. Je ne suis pas si méchant que tu crois. Seulement, pourquoi me parler encore de cette petite? Tu sais que je l'ai été très ennuyée, agacée de l'affaire de la grotte. Moi, je voudrais l'oublier. Oh, vous ne cherchez que des raisons de vous rompre la tête. Cette petite ne pense déjà plus à cela. En tout cas, elle interprète ce qui vous concerne dans un sens favorable. Je crois que vous lui plaisez. Voyez-vous ça, le petit ange? Mio, vous êtes stupide, ce soir, dirait Mistress Lovely. Je ne dis pas que cet enfant songe à entreprendre des scènes de débauche en votre compagnie. Seulement, vous êtes du genre d'homme qui lui est sympathique, et quoi que vous fassiez, elle vous sera indulgente. C'est très innocent et très naturel. Toutes les femmes sont ainsi faites. Il y a non pas un homme, mais un type d'homme qui les intéresse à première vue, sans provoquer nécessairement d'autres sentiments, et pour lequel elles auront toujours une secrète complaisance. Et vous avez découvert cette complaisance en ma faveur chez Mademoiselle Solveig. Je vous demande s'il est permis de s'appeler comme cela. Oui, elle s'est informée de vous et a demandé ce que vous faisiez. Bon, si ce n'est que ça. Attendez donc. Elle a été fort étonnée que vous fussiez statisticien. Que veut-elle donc que je sois? Ben, je ne sais pas, mais elle a été étonnée, tout à fait étonnée. Et quand une femme est étonnée à votre sujet, c'est le meilleur signe que vous êtes dans la catégorie d'hommes dont je vous ai parlé. Et sa sœur lui ayant demandé ce qu'il y avait d'extraordinaire à ce que vous fussiez statisticien, elle a dit en ouvrant des grands yeux, « Mais rien, rien du tout, seulement j'aurais pas cru. Louisa, voyons, pourquoi me racontez-vous tout cela ?»« Pourquoi, je ne sais pas, moi non plus. C'est peut-être parce que j'ai un certain plaisir à savoir que vous plaisez. C'est peut-être parce que je suis un peu jalouse. » « Mais Louisa, Louisa, c'est absurde. Où as-tu la tête, ma chérie ?» Elle le prit dans ses bras, le serra avec une tendresse désordonnée. Il crut qu'elle avait déjà cette inquiétude un peu folle des premiers temps de l'amour, où l'on se connaît mal, où l'on croit que tout le monde va vous prendre votre nouveau trésor. « Oh, mon mio !» répétait-elle. Il cherchait des termes pour la rassurer. Il lui semblait que la franchise de sa passion unique éclatait sur sa figure, était sensible au moindre de ses gestes. Mon Dieu, mais que vais-je lui dire pour qu'elle ne s'emporte pas ce soir un doute sur mon amour, après les preuves d'amour qu'elle me donne, elle, et après qu'elle est venue là, si loin, toute seule, dans la nuit, malgré sa grande fatigue. Et il sait que c'est dû à trouver quelque chose de fort, de simple, de très sincère. Elle avait la tête appuyée sur son bras. Ses yeux regardaient fixement devant elle. Ses cheveux relevés par une caresse découvraient son front pensif. Il était sûr qu'une idée la tourmentait. « Louisa, Louisa, lui dit-il, à quoi pensez-vous ? » « Je pense, dit-elle, à cette grande pointe de la lune dont tu m'as parlé, et que je ne vois toujours pas. » Et en achevant ces mots, ses paupières tombèrent et elle s'endormit. Il la baisa doucement et en souriant de la surprise que la gracieuse mobilité de sa cervelle de femme venait de lui causer, puis la berça dans ses bras comme une enfant. Il l'adorait. La lumière s'élargissait doucement à la surface du lac. La beauté du silence sublimisait le paysage. Les rives opposées apparurent à mesure que s'élevait la fine lune brillante. Presque en face, les marbres d'Isolabella franchirent sous l'ombre de feuillages, et derrière la grosse masse touffue d'Isola Madre, plus lointaine, Les maisons de Palanza, flattées par la double clarté du ciel et du miroir des eaux, pouvaient ressembler à une aimable troupe d'ondines endormies sur la grève. Au milieu de cette paix splendide, comme chaque soir, le chant de Carlotta s'éleva du côté de la mer des îles, et sa barque fleurie, qui semblait grosse comme un oiseau nageur, pointa sur le lac dont elle déchira la surface d'argent. C'était toujours la même chanson d'impudeur candide, une sorte de cri de la nature même, fougueuse et dolente, ardente jusqu'à la frénésie, et tout à coup apaisée, attendrie, sans rythme apparent, mais cependant harmonieuse. Dans le concert de beauté de toutes les choses nocturnes, cette voix simple prenait l'importance d'une parole échappée tout à coup de la terre et de la nuit même, échangeant leur extase ou s'adressant à Dieu. Un violent frisson parcourut tout le corps de Gabriel, puis lui remonta aux joues dont la chair lui semblait se rétracter sous mille petites piqûres. Son mouvement faillit sans doute éveiller la jeune femme qui dormait sur ses bras. Elle entr'ouvrit la bouche et fit plusieurs fois « Ah, ah, ah !» Reconnaissait-elle dans son sommeil la chanson de la marchande de fleurs, qui l'avait déjà plusieurs fois troublée? Peut-être vibrait-elle, merveilleuse beauté, à l'unisson de toutes les inconscientes beautés exaltées en ce moment dans ce coin fortuné du monde. Tandis que la voix de Carlotta s'éteignait dans l'éloignement, Gabriel fut tout étonné d'apercevoir une autre barque qui avait déjà passé Isolabella et se dirigeait de son côté. On entendait de temps en temps la résonance sourde des avirons choquant les parois de bois, et jusqu'à l'éperlement menu de l'eau quand la tranche plate se relevait à intervalles. Il reconnut bientôt le chapeau gris à large bord du poète anglais et n'eut que le temps de prendre ses dispositions pour que Madame Belvidéra ne fût pas aperçue. Fort heureusement, le toit de coutil était resté tendu au-dessus de leur tête. Il retira le bras de sous son précieux fardeau et cacha le visage et les cheveux de la jeune femme sous un châle léger qu'elle avait apporté. Enfin, n'espérant pas qu'ils pussent se dissimuler l'un et l'autre, il la quitta afin d'aller lui-même au-devant du danger et tâcher de l'écarter. Il craignait que le batelier ne parlât fort et ne réveillât Madame Belvidéra, qui eût poussé les hauts cris. Heureusement, le brave homme, étant accoutumé à promener lit, absorbé dans ses pensées, ne parlait plus en face de lui. Il amarra sa barque et se retira. Gabriel dit à son ami que l'on avait eu de l'inquiétude de son absence et lui demanda s'il n'avait pas rencontré Carlotta sur le lac ou dans les îles. Sans lui répondre, le poète restait debout, tourné du côté du lac. « Écoutez, dit-il, le doux jasement des eaux avec le sable de la rive. » Ne dirait-on pas que ce murmure est fait pour faire comprendre le silence, dans la même mesure que notre pauvre langage contribue à nous rendre l'univers intelligible? Ah, quel poète a ordonné le rythme selon lequel chaque flot, comme un beau vers, vient faire teinter ici sa dernière syllabe? Et quel est le sens de ce poème? Il y a de ces chutes de flots qui sonnent parfois avec la clarté joyeuse d'une cymbale lointaine, et d'autres, au contraire, sont presque insaisissables et ressemblent au soupir d'un enfant qui dort. Est-ce l'écho d'un jeune éclat de rire inoubliable qui aurait jailli autrefois ici et dont tout le rivage eût été ému? Est-ce le souvenir d'une peine secrète confiée ici à l'ombre de la nuit? Gabriel le trouvait bien sensible aux émotions humaines, contrairement à son ordinaire. L'anglais prévint sa question. « Mais toute la beauté du monde, ajouta-t-il, à sa sourde dans le sourire ou dans la douleur de l'homme, de même que ce lac est fait de la goutte d'eau qui sourd de la terre. Cependant, je ne m'intéresse pas plus à tel homme joyeux ou souffrant que je ne le fais à une goutte d'eau. tant que le sang de son rire ou de ses larmes n'a pas atteint la proportion de ce lac. Dompierre l'eût écouté volontiers, mais il avait hâte qu'il s'éloignât à cause de la présence de Madame Belvidéra. Lee n'était pas un homme à qui l'on pût dire « Entrez-vous, il est tard !» Le temps n'était pas divisé pour lui en une série de relais artificiels auxquels le besoin de régularité de nos organes et de nos fonctions sociales nous a servi communément. Non, il mangeait quand il avait faim et se reposait quand sa pensée ou son imagination étaient à bout. Lee devint à son ami que cet être fantasque serait le seul à l'hôtel à ignorer le tourment magique et comique à la fois que son absence avait causé et qui, grâce à la popularité de Madame de Chandoiseau, avait distrait tout le monde. Lui en expliquer les péripéties serait peine perdue. Demain, 60 personnes auraient les yeux fixés sur lui quand il paraîtrait à la table d'hôte. Il prendrait son repas dans la plus grande sérénité, sans s'apercevoir qu'il n'est pas seul à table. Une femme qui n'aura pas dormi de la nuit à cause de lui aura des battements de cœur à sa vue. Et il oubliera peut-être de s'excuser d'avoir fait faux bond la veille, au déjeuner, qu'il avait accepté. Gabriel ne put s'empêcher de sourire à cause de ce que ces divers contrastes avaient d'original. Et Lee l'aperçut. « Ah » dit-il, « voilà votre rire français. Vous ressemblez encore à Voltaire, ce soir. Je vous verrai une autre fois, adieu. » Il remonta doucement la berge et gagna la route en prononçant à haute voix des vers. Vers 5 heures de l'après-midi, Dompierre, allant prendre un bain, vit émerger de l'eau une tête aux longs cheveux gris, plaqués et ruisselants comme des joues rasées. C'était celle du révérend Lovely. Le clergyman l'interpella aussitôt au milieu même de son essoufflement, et avec un accent tout à fait outrageux pour la langue française, « Ah oh !» dit-il, « je suis très satisfait de vous retrouver à côté de moi, Monsieur Dompierre. J'ai aimé beaucoup la conversation, voulez-vous causer ?»« Mais avec le plus grand plaisir, mon révérend. Et malgré que l'eau me paraisse un milieu peu favorable à une conversation suivie. Christ enseigna dans la barque jusqu'au plus fort de la tempête. Il n'y a point de mauvais endroits pour prêcher la parole de Dieu, mais il y a des endroits qui sont mauvaises pour le salut de nos âmes. Que voulez-vous dire ? Dit Gabriel en prenant pied et intrigué par le préambule du clergyman qui avait jusqu'alors manifesté pour lui tant d'indifférence qu'il était peut-être la seule personne à l'hôtel à qui il n'eût pas passé subrepticement, en sortant de la table, le petit testament de poche à reliure molle. « Cet pays, dit le clergyman, est mauvaise. Allons donc, mon révérend, vous voulez rire. Vous vous portez, je pense, aussi bien que moi, et tout le monde a bonne mine autour de nous. Est-ce que par hasard, Mistress Lovely... Non, non, il ne s'agit pas de Mistress Lovely. » qui a le vieil âge et qui a fini d'être troublé. Mais tout le monde n'est pas ainsi, et véritablement, le climat de cet pays est mauvaise pour les âmes. Mais il me semble au contraire que la beauté y abonde, et elle est, si je me trompe, un des attributs de Dieu. Non, dit le clergyman en sautillant dans l'eau, cette beauté ne vaut rien du tout, véritablement, elle est perfide, et je pense qu'elle vient du malin. » Le jeune homme dissimula un besoin irrévérencieux du sourire, en faisant un plongeon, et revint se mettre à la disposition de son prédicant, qui avait monté l'échelle et s'essuyait posément, assis sur le sable au soleil. « Le malin, » dit Gabriel. Mais j'ai nommé ainsi avec familiarité le démon, monsieur Dompierre. Véritablement, il faut trembler quand il prend la figure aimable. Oh, si vous voyez le malin sous les choses aimables, je suis inquiet en effet pour plusieurs personnes et pour vous-même, mon révérend. Le malin vous a touché, je vous en préviens. Je le vois qui vous touche, puisque j'ai du plaisir en votre compagnie. Et entre nous, je ne sais ce qui me retient de vous dire le nom de quelqu'un qui me confessa que votre présence lui était un objet de délectation. Le révérend Lovely se releva vivement en achevant de s'habiller. « Il ne convient pas d'introduire la flatterie dans un sujet aussi plein de gravité, jeune homme. La flatterie, c'est l'ouverture par où le démon, il entre dans le home, et là, une fois assise, il est terrible. « Brouh !» dit Gabriel malgré lui, à la seule représentation des ravages que le malin pouvait causer dans le home du révérend Lovely. « Mariez-vous ! » s'écria le bonhomme, tandis qu'il passait son gilet. Il crut que Don Pierre n'en avait pas entendu à cause des mouvements qu'il faisait dans l'eau et reprit. « Mariez-vous ! Mariez-vous avec une jeune miss de votre pays ?»« Bon, sans doute, mais je ne suis pas pressé. » Il avait rajusté sa redingote d'alpaga et il s'en alla en jetant encore la conclusion pratique qu'il avait promptement tiré de cette rencontre. « Mariez-vous, monsieur Dompierre, mariez-vous » Celui-ci demeura un peu perplexe en réfléchissant au sens de la conversation du clergyman. Lui conseillait-il le mariage à l'instigation de quelqu'un qui avait un intérêt à le faire? Avait-il eu vent de sa liaison et déplorait-il qu'il fût l'occasion d'un scandale? Ou bien enfin, s'était-il tout simplement épanché lui-même en tâchant de fournir à autrui les moyens de ne pas tomber, à son âge, dans les tentations brûlantes dont il avait peut-être à souffrir? Les trois hypothèses étaient également plausibles. En sortant de l'hôtel, Don Pierre aperçut sur le sol un petit volume relié à l'anglaise. C'était le Nouveau Testament. Il le ramassa en souriant et le soir il le remit au révérend Lovely, sous prétexte qu'il avait dû l'oublier. « Non, non, » dit le révérend, « c'est à vous. Si vous avez trouvé cet livre, il est à vous. »« Je souhaite, » ajouta-t-il, « que vous en fassiez la lecture, car c'est un livre plus profitable encore en cet pays que partout ailleurs. Regardez, voilà encore le musique qui vient ici presque tous les soirs. Eh bien, cette chose nous fait mal, croyez-moi. Cette chose est mauvaise. » Une troupe napolitaine, composée de 4 femmes et d'une 10aine d'hommes, préludait en effet devant l'hôtel, sur le violon et leur mandoline, au concert quasi quotidien. Les personnes qui ne se laissaient pas de cette musique brûlante et de ces mouvements un peu bruyants prenaient place dans le hall autour de petites tables de marbre où l'on servait les glaces. La troupe, après quelques chansons peu variées, se tria et 3 couples vinrent au milieu des assistants exécuter la tarentelle. Les hommes étaient tous beaux. Une des femmes, blonde, assez grande et à la fois souple et gauche dans ses mouvements, avait un charme rude et puissant. Les couples tournaient dos à dos, se cherchant toujours du regard, maniant avec frénésie les castagnettes, et excités par les autres instruments, par les voix et de temps à autre par les applaudissements du public. À la fin, les regards s'étaient joints. Il demeurait, la femme renversée en arrière, comme vaincue, l'homme penché sur elle, les yeux dans les yeux, flanc à flanc, les mains hautes dans les castagnettes immobiles, semblant pâmés dans tout leur corps, la bouche seule et les prunelles ardentes se dévorant à la courte distance du souffle. Le révérend Lovely, qui avait regardé le spectacle jusqu'à la fin, tourna soudain les talons et se dirigea dans l'ombre du jardin en levant les yeux au ciel. Mais la jolie fille qui avait eu le succès de la tarentelle et allait commencer le tour de l'assistance, une sébile à la main, courut à lui et on le vit se retourner du côté de la lumière pour prendre de la monnaie dans son gousset. C'était le prix du scandale. Du moins fit-il ses efforts pour ne point recevoir le sourire troublant de la danseuse napolitaine. Gabriel faisait remarquer la petite scène à Madame Belvidera, qui était assise auprès de lui, et tout en lui racontant les conseils impromptus que que le révérend lui avait donné au bain. « Prenez garde, dit-elle. Il y a ici une jeune fille de vos compatriotes qui est tout à fait en âge d'épouser un homme comme vous. Oh, vous ne lui déplaisez pas, assurément. Eh bien, vous déconcertiez un peu sa sœur aînée, qui lui tient de maman. Vous n'avez pas de défaut assez saillant pour ne pas lui représenter un parti sortable. Il y aura, ou il y a déjà peut-être, un complot organisé contre ou pour votre intéressante personne. Je n'aime pas ces plaisanteries-là. Voyons, je vous parle en riant de la conversation énigmatique du bonhomme Lovely à cause de ce qu'elle a d'imprévu et d'amusant, et vous me répondez de votre plus grand sérieux. Mais c'est sérieux, un jeune homme en présence d'une jeune fille. C'est une réunion tellement sérieuse que tout autour d'eux conspire à les rapprocher, les gens et les choses, les hasards fertiles. C'est une entente secrète, mystérieuse, une espèce de sourde volonté de la nature qui agite et met tout en branle dans le but de les unir. Mais pourquoi me dites-vous cela ? Vous savez bien qu'il m'est très agréable de vous entendre parler de tout ce qui n'est pas vous, votre amour et l'espoir de le prolonger, d'y consacrer toute ma vie. De plus, vous savez qu'il y a dans ce cas particulier quelque chose qui m'est tout spécialement désagréable et qui devrait vous interdire même de l'envisager comme réalisable. Faut-il vous rappeler la circonstance de la grotte ? Enfant, mais tout ça ne signifie rien. Et cette circonstance est une chose qui pèse bien peu contre la détermination d'une femme. Qui sait, elle a pu même produire tout le contraire de ce que vous imaginez. Ah, mais comme vous nous connaissez peu. Et vous me demandez pourquoi je vous parle de cela, moi. Mais peut-être bien parce que je ne peux pas plus faire autrement que les autres. Peut-être parce que j'obéis aussi à cette force secrète, à la conspiration universelle en faveur du mariage. Peut-être aussi est-il naturel que je vous parle avant tout autre de cette éventualité, parce que je suis la personne qui la redoute le plus. Non, tout cela m'agace au plus haut point. Je préfère rompre toute relation avec les chants d'oiseaux. Mais ce n'est pas moi qui vous ai poussé à les connaître, mon ami. Mais pouvais-je prévoir la chute de cette jeune fille au milieu de nous ? Ah, tenez, je fais le serment de ne plus nouer de relations avec aucune famille avant d'avoir posé les questions suivantes. Avez-vous une ou plusieurs filles, sœurs, cousines, amies ou connaissances, à quelque degré célibataires, ayant atteint l'âge nubile ou sur le point d'y parvenir ? Non. N'avez-vous en aucune de vos entournures, ni veuve ni divorcée ? N'avez-vous personne qui soit en instance de divorce, voire même de séparation de corps ? Non ? Ah, eh bien, alors tombez là, je suis des vôtres. Les Napolitains, ayant quitté le hall, jouaient des airs de valse, dont les sons adoucis arrivaient agréablement par les grandes baies ouvertes. Quelques Américaines et des Viennoises se balançaient avec élégance aux bras de jeunes gens en smoking. Madame de Champ d'Oiseau, qui allait de groupe en groupe, en parlant à tort et à travers, cogna familièrement de son face à main l'épaule de Gabriel, pendant qu'il causait avec Madame Beldibera, et lui dit, non sans une pointe de méchanceté, « À qui donc ai-je entendu dire que M. Dompierre était un valseur émérite ? En tout cas, le bruit en est venu jusqu'à ma petite sœur qui le sait. » Et elle passa, caquetant déjà plus loin. « Mais c'est un peu fort, dit le jeune homme à Madame Belvedere. Oh, j'ai envie de me sauver. »« Il est trop tard, dit-elle en riant. Vous voilà pris dans le piège. Il faut que vous valsiez avec Solveig. »« Ah non, pas avant d'avoir dansé avec vous. »« Oh non, non, ne faites pas cela, je vous en prie. »« Il n'y a jusqu'à présent que les jeunes filles qui dansent. » Allez inviter la petite Solveig, c'est moi qui vous l'ordonne. Et je ne vous plains pas tant. Solveig parut fort surprise quand il la salua en la priant de lui accorder cette valse. Elle eut un mouvement d'hésitation, infiniment bref, et le regarda un instant bien en face de ses yeux bleus. Elle les rabaissa aussitôt, lui donna le bras sans mot dire. Il était résolu à interpréter tout ce qui la concernait dans le sens le plus défavorable, mais la première phrase mentale par quoi se formula en lui son impression première fut « Eh bien, décidément, ma petite, tu n'as pas froid aux yeux. » Il ne se souvenait pas avoir vu jamais deux yeux se poser si franchement en face des siens. « Voyez-vous ça, continua-t-il avec cette fatuité dont les hommes se départissent rarement en présence du plus maigre encouragement féminin. Vous vous dites, mademoiselle, que je suis un fêtard, ni trop décati, ni trop bête, et qui mélangerait volontiers au plaisir qu'il goûte avec une belle maîtresse, celle d'un flirt un peu hardi avec une fraîche peau blonde. Mais votre sœur songe à vous marier, vous n'y songez pas d'inconvénient. Quant à vous, mais vous n'avez pas tant d'exigences. Attends un peu, ma petite. » Ils avaient fait plusieurs tours de valse en silence. Il remarqua qu'elle était fort légère et dansait admirablement. Elle avait un parfum délicat. Son bras, qu'il soutenait de la main, avait une forme exquise, et comme elle était dégantée, la finesse de sa main le frappa particulièrement. « Mon vieux, fit-il à part lui, tu n'as jamais eu moins de veine que de te trouver éperdument amoureux, juste au moment où une petite caille aussi douillette te tombe dans le bec. Quelle délicieuse aubaine tu vas rater là. Comme vous semblez être aimé de madame votre sœur, mademoiselle, et je suis sûr que vous êtes son ami au moins autant, je parierais que vous avez les mêmes goûts. Mon Dieu, monsieur, à part lui, mon Dieu, monsieur, ça veut dire que tu t'en moques des goûts de ta sœur, comme ta sœur le fait elle-même en son fort intérieur. Tu ne sais pas plus qu'elle quels sont tes goûts, ni même si on t'en a. Seulement, tu le fais moins à la pause que ta godiche de sœur. Tu tiens pas à avoir des goûts. Bon, laissons ça. Madame de Champdoiseau nous a tous séduits ici, mademoiselle. Oh, c'est une femme de l'esprit le plus charmant, et vous devez avoir à Paris de délicieuses relations. » Elle le regarda avec une moue très jolie et très intelligente, au fond du bleu limpide de ses yeux, et sans répondre. « Bien, fit-il en lui-même. Oh, tu te dis que je te verse des banalités, que tu trouves un peu long pour le début. Tu aimes que ça ne traîne pas, toi. Oh, tu t'étonnes que je ne t'ai pas fait jusqu'à présent un compliment s'adressant directement à toi, ou bien que je ne t'ai pas pressé le bras dans ma main, au lieu de l'enterner dans les bêtises comme un collégien. Eh bien, Bernique, ma petite, tu peux te fouiller. Je suis ici de corvée, moi. T'as pas l'air de t'en douter. On m'a commandé de valser avec toi, petite péronnelle. Et je valse. Aïe donc, je valse même pas mal, comme tu vois. Ça m'est déjà pas si désagréable. Il y en a qui s'en contenteraient. Mais quant à faire l'aimable, spirituel, ou bien quant à ouvrir le flirt, non, rien de fait. Oh, parce que tu m'as vu dans la grotte, parce que tu sais que je n'y vais pas par quel chemin avec la belle italienne, tu penses que je n'ai plus à me gêner avec toi. Il y a presque une complicité, presque une connivence entre nous. Et parce que tu me laisses voir que je te botte assez, tu te demandes pourquoi je n'y vais pas avec toi, la bonne franquette. Eh bien, non. Je continuerai d'être banal et décent. Je te dirai des choses stupides et convenables. Oh, je ne presserai pas ton bras, malgré qu'il ne soit pas mal du tout. Ah non, ça, je ne dis pas non. Avouez, mademoiselle, que l'on vous avait trompé en vous disant que j'étais un valseur. Mais je crois, en revanche, que je deviendrai en dansant avec vous. Mais, monsieur, fit-elle simplement, personne ne m'a prévenu que vous fussiez un valseur. Je m'en aperçois seulement. Ah, c'est donc un tour de madame de Champdoiseau. Comment, monsieur, que dites-vous? Il se demanda un moment s'il aurait la cruauté de lui confirmer qu'il ne l'avait invité que sur la prière de sa sœur. Mais il se sentait en veine d'infamie. Il en eut comme une pire à l'égard de cet enfant, si l'occasion lui en eût fourni. Son amour pour l'italienne le rendait enragé comme une bête contre tout ce qui pouvait avoir, en dehors d'elle, le parfum d'une simple galanterie. « Mais, mademoiselle, reprit-il, il n'y a qu'un moment, madame de Chant-d'Oiseau me remplit de confusion en m'avertissant que le bruit de cette réputation était parvenu jusqu'à vous et qu'il ne tenait qu'à moi de le démentir. La modestie me commandait de ne pas hésiter. » Elle rougit et son joli bras eut une petite secousse nerveuse. Il ressentit une mauvaise joie de se venger de la sottise de madame de Chant-d'Oiseau en humiliant sa petite sœur à son occasion. De plus, il avait conscience, par sa façon de brutaliser Solveig, d'éloigner de son idylle toute cette famille et de détourner définitivement de lui ses yeux bleus au regard imperturbable qui portait tous les jours l'image de la grotte d'Isolabella. Il reconduisit la jeune fille à sa place et revint à la sienne. « Maintenant, dit-il à madame Belvidéra, ai-je gagné le droit de danser avec vous ?»« Vous avez gagné le droit d'être mis au ban de notre société, car il est clair que vous avez maltraité cette jeune fille qui vient de s'asseoir le cœur gros, blessée évidemment en quelque chose de très intime et qui ne pourra être consolée que par sa bête de sœur, dont la première parole va la faire sangloter. Oh, vous prêtez à tout le monde votre sensibilité, et vous êtes d'une générosité incompréhensible envers cette petite que vous ne connaissez pas plus que moi. Avouez que vous avez été méchant avec elle. J'ai suivi tous ses mouvements et les vôtres. Je ne vous ai jamais vu une aussi mauvaise figure. Mais non, non, j'ai été seulement aussi banal et aussi sot que possible. N'est-ce pas même généreux de ma part, car au moins elle ne s'illusionnera pas sur la valeur du parti que je représente. Oh, taisez-vous, je vous déteste, allez-vous-en. Mais c'est à cause de vous que j'ai fait ce que vous me reprochez. Il la regardait assise nonchalamment dans une berceuse d'osier. Ses magnifiques cheveux noirs avaient sous les lampes à incandescence des reflets bleuâtres et noirés que le léger balancement de son corps faisait mouvoir le long des épaisses torsades ondulées. Elle le regardait de ses grands yeux sombres, embellis par l'émotion que lui donnait confusément sa réelle pitié pour la jeune fille, et un sourd plaisir tout de même de le sentir transformé, devenu cruel, incivil et méchant à cause de sa passion pour elle. Elle avait aussi une véritable colère contre lui, et elle contraignait tout cela en lui parlant du bout des dents, avec un sourire immobile et fin, sous les regards de tout le monde. Ses beaux bras étaient demi-nus, et sa main, ornée d'une simple perle qu'elle levait jusqu'à la lèvre pour en dissimuler les contradictions involontaires, ramenait constamment l'attention de son amant sur sa bouche dont la seule vue lui faisait trembler les jarrets. « Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, » dit-elle. « Si, si, » fit-il en se penchant pour la saluer, « ce soir, à 10 heures, près du bassin, dans le jardin des annexes. »